Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
140 000 foyers privés d'électricité dans le sud-ouest et de nombreuses routes coupées. La tempête Amélie a soufflé fort sur tout le littoral aquitain et dans l'ouest également. Un motard a été gravement blessé par la chute d'un câble sur un pont à Bordeaux. Le trafic des TER, en revanche, a repris normalement. Dans le sud-est, c'est la pluie qui a provoqué d'importantes inondations dans les régions de Marseille et Nice. Le point complet dans un instant. Mais pourquoi s'en prendre à une école du cirque à Chanteloup-les-Vignes? Une nouvelle soirée de violence urbaine se termine par la destruction d'un chef chapiteaux partis en flammes. Des policiers ont également été pris pour cible. Pour le préfet des Yvelines et la maire de Chanteloup, c'est la politique de rénovation urbaine qui était visée. Dans ce journal également, les premières évaluations de la rentrée en CP et en CE1 qui montrent, selon le ministre de l'Éducation nationale, une hausse de la maîtrise des savoirs fondamentaux. Mais la méthode d'évaluation est-elle fiable? Le groupe État islamique qui revendique la mort d'un soldat français au Mali, faut-il le croire? L'abattoir du Bois Chaud dans l'Indre, qui reprend doucement ses activités un an après sa fermeture pour cause de maltraitance animale. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est le droit de suite de ce dimanche 13h. Et puis c'était une voix connue.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour.
Marie Laforêt, chanteuse et comédienne, est morte ce matin en Suisse. Elle avait 80 ans.
France Inter.
140 000 foyers sont donc encore privés d'électricité dans le sud-ouest où la tempête Amélie, qui était attendue, a fait de nombreux dégâts, mais pas de victimes, on va y venir. Ce qui n'était pas prévu, en revanche, ce sont les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud-est, provoquant de nombreuses inondations dans les Bouches-du-Rhône. Entre autres, il est tombé par exemple l'équivalent d'un mois de pluie en une heure à Marseille, soit 42 mm. Le secteur tout autour de l'étang de Berre a particulièrement été touché, notamment à Vitrolles, où vous vous êtes rendu, Quentin Pérez de Tudela.
C'est le cas notamment du quartier de Frescoul qui s'est retrouvé littéralement sous les eaux. Des eaux qui ont ruisselé partout dans les rues, charriant boues et branches d'arbres. Les feuilles mortes sont venues aussi boucher les égouts, ce qui a empêché aux pluies de s'évacuer. Bilan, une école primaire, l'école Picasso, inondée. Elle sera fermée demain et mardi pour permettre aux services de la mairie de tout remettre en ordre avant le retour des élèves prévu en milieu de semaine. Les habitants, de leur côté, tentent eux de s'organiser pour évacuer les eaux qui ont inondé leur garage. Il y en a même un dont la porte a été arrachée par la pression des eaux. Alors on s'active, on sort les pompes, on sort aussi les pelles et les balais. Pour les habitants dont les dégâts ont été les plus importants, eux n'iront pas au travail demain. Ils vont faire chauffer le téléphone pour se rapprocher de leurs assureurs afin de réparer au plus vite les conséquences de ces pluies diluviennes.
Quentin Pérez de Tudela à Vitrolles dans les Alpes-Maritimes, la région de Nice. Ce sont plus de 50 mm qui sont tombés en une demi-heure. L'autoroute A8 a d'ailleurs été coupée à Nice en raison d'une coulée de boue. Dans le sud-ouest et l'ouest, on l'a dit, des rafales de vent à 149 km/h ont été enregistrées sur le littoral, au Cap Ferret notamment, 146 km/h à Belle-Île, 124 sur l'île de Ré, 121 à Biscarrosse dans les Landes. 140 000 clients restent donc privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine, où de nombreuses routes ont été coupées par des arbres tombés sur la chaussée, de nombreux TER annulés pour les mêmes raisons, mais le trafic a maintenant repris. Au final, plus de peur que de mal, mais le spectacle dans ces moments-là est toujours impressionnant, comme le raconte par exemple cet habitant de Jurançon, près de Pau. Il était aux premières loges.
J'ai entendu un crack et puis des branches tombées sur le sol. J'ai dit, s'il doit y avoir quelque chose là, je me suis levé. Depuis la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait la moitié de la route. Elle était couverte de grosses branches, de platanes sur la route. Les voitures, ça a eu chaud. Il y a une branche qui est tombée juste à côté d'une voiture. Il y a une fourche de platane qui est tombée sur la ligne électrique, sur la clôture. Donc ça a arraché le câble électrique qui alimente la maison. Et puis qui alimente aussi les voisins derrière. Voilà. Donc pas d'électricité. Bon, on espère que ça va être rétabli assez vite.
Voilà un témoignage recueilli par Evan Le Bastard de France Bleu Béarn. Le Béarn où la circulation reste compliquée sur la nationale 134 entre Jurançon et Pau justement. À noter qu'un motard a été gravement blessé ce matin sur le pont Saint-Jean à Bordeaux à cause d'une chute de câble sur la route. C'est pour l'heure la seule victime recensée par les pompiers. À cette heure-ci, seuls 4 départements restent en vigilance orange. 3 pour vent violent dans
l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme, un pour pluie et inondation, la Corse du Sud. Des actes lâches et imbéciles pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. C'est une nouvelle soirée de violence urbaine qui s'est conclue par la destruction gratuite d'une école du cirque, un grand chapiteau de bois parti en fumée. Incendie délibéré, selon la maire de Chanteloup, qui dénonce toute une série d'agressions et d'actes de vandalisme dans sa ville ces derniers jours. Juste avant le départ du feu, d'ailleurs, une trentaine de jeunes s'en étaient pris également aux forces de l'ordre. Fabien Randriana Rissoa, à Chanteloup.
Un grand tas de cendres abrité par des poutres calcinées. Voilà tout ce qui reste d'un chapiteau à près d'1 million d'euros inauguré il y a un an. Comme beaucoup de riverains, ce matin, Serge est venu constater les dégâts.
Je suis écœuré de voir que des jeunes puissent s'amuser à faire ce genre de conneries, alors qu'ils détruisent bien souvent le jouet de leurs propres frères ou sœurs. Écœuré de voir les choses qui peuvent être faites pour rendre service aux jeunes et que des abrutis, des idiots, on ne sait pas qui c'est, viennent casser le jouet des enfants. On n'a pas le droit de casser les rêves des enfants.
Depuis les fenêtres des immeubles voisins, Bilal et Oussama, tous les deux pères de famille, ont assisté aux affrontements.
Là, il y avait du feu partout, il y avait même des feux d'artifice de loin qui venaient de loin. Ah ouais, c'était énorme. Hein.
Ouais, c'était très 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 violent. Soit pour des enfants, moi j'ai deux enfants, je commence à dire on peut pas élever des enfants ici, c'est trop d'insécurité.
Indigné mais pas surpris, les habitants ont senti le climat tendu ces derniers jours entre les jeunes et les forces de l'ordre. Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes, n'entend pas baisser les bras pour autant.
Ça fait plusieurs semaines que l'éclairage public est attaqué régulièrement, quand on essaye de réparer, que les ouvriers qui viennent réparer sont attaqués, que certains ont passé la nuit aux urgences parce qu'ils avaient été blessés. Oui, il y avait un climat épouvantable. Mais je n'accepte pas l'idée qu'on nous fasse repartir 20 ans en arrière.
Atterrés par ce spectacle, les habitants du quartier redoutent maintenant la tombée de la nuit et un possible retour des affrontements.
Pour la maire de Chanteloup, Catherine Arnoux, on vient de l'entendre. Pour le préfet des Yvelines également, ces actes délibérés visent la politique de rénovation urbaine qui a été engagée par les autorités à Chanteloup. Une politique qui gênerait, selon eux, les trafics souterrains. Le niveau des élèves remonte. C'est un ministre de l'Éducation nationale optimiste qui fait ce matin la une du JDD, Jean-Michel Blanquer, qui s'appuie pour sa démonstration sur les premières évaluations de la rentrée 2019 en CP et en CE1, évaluation favorable, qui montre effectivement une hausse de la maîtrise des savoirs fondamentaux en français et en mathématiques. Sonia Princé, à quelques exceptions près toutefois.
Oui, pour les élèves de CP, l'amélioration entre 2018 et 2019 est minime. En CE1, en revanche, les élèves semblent avoir davantage progressé. La compréhension de phrases lues par l'enseignant est meilleure. 82% des élèves maîtrisent cette compétence contre 77% l'an dernier. La lecture est plus fluide. En mathématiques, les résultats augmentent sur tous les exercices, à l'exception du calcul mental. Et ces chiffres sont encore plus encourageants pour l'éducation prioritaire, où vous le savez, les classes sont désormais toutes dédoublées en CP et CE1. L'effet est forcément positif quand les élèves sont à 12 dans une classe. Les chiffres le confirment. Les élèves rattrapent leur retard, en lecture en particulier.
Alors reste la grande question, ces évaluations sont-elles fiables ? Le ministre ne prend-il pas ses rêves pour la réalité ?
Alors il faut prendre ces résultats avec beaucoup de pincettes. D'abord, la progression des élèves n'a pas pu être mesurée sur tous les exercices, puisque sous la pression des syndicats, certains ont été améliorés cette année, donc la comparaison se limite à une partie des compétences. Ensuite, ces tests sont toujours très contestés par les enseignants. Un professeur sur 5 seulement reconnaît qu'ils sont utiles pour déceler les difficultés. Les enseignants ont fait passer ces évaluations avec plus ou moins d'enthousiasme, il y a eu des résistances et cela peut jouer sur la fiabilité des chiffres. Enfin, les syndicats ont dénoncé un outil de communication politique. À travers ces résultats, Jean-Michel Blanquer veut prouver que sa politique porte ses fruits, mais il faudra attendre plusieurs années pour en tirer un véritable bilan.
Sonia Princé, Jean-Michel Blanquer qui précise aussi ses intentions en direction des directeurs d'école dont le suicide récent de Christine Renon avait rappelé les difficultés. Le ministre annonce qu'il mobilisera dès la rentrée de janvier les volontaires du service civique pour les aider dans leurs tâches quotidiennes.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Au Mali, une double revendication du groupe État islamique qui dit être à l'origine de l'attaque à la bombe qui a tué hier un soldat français, Ronan Pointeau, 24 ans, brigadier au Spahi de Valence, et Daesh qui revendique aussi l'attaque d'un poste militaire malien ayant fait 49 morts la veille. Double revendication à laquelle ne croit pas l'universitaire spécialiste du monde arabo-musulman Gilles Kepel, qui pense plutôt à une récupération. Il était ce matin l'invité de France Inter.
Je ne crois pas que Daesh ou ce qui faisait appeler État islamique aient aujourd'hui énormément de capacité à fonctionner de la même manière qu'ils le faisaient. La structure de l'organisation a été quand même très profondément détruite en Irak et en Syrie. Même Baghdadi lui-même n'avait plus une importance extraordinaire, c'était encore un nom évidemment. Mais je ne suis pas convaincu que ce qui se passe en Afrique y soit directement lié. Autant que je sache, ce sont des groupes locaux qui ont réclamé cette franchise, ce franchising, si j'ose dire, de l'État islamique, et qui s'en réclame. Aujourd'hui, le temps que je sache, c'est davantage des enjeux qui se déplacent vers l'intérieur du pays, des enjeux intracommunautaires.
Voilà, Gilles Kepel avec Éric Delvaux ce matin sur France Inter. Quand l'Église fait un geste de reconnaissance financière pour les victimes de pédophilie, c'est une information France Info. La décision de principe a été actée par la Conférence des évêques de France, dont l'Assemblée doit encore voter les modalités de ce qui prendra la forme d'une allocation dont le montant reste à déterminer, mais qui devrait se chiffrer en milliers d'euros et concerner toutes les victimes de pédophilie, comme le précise Thierry Magnien. Il est le porte-parole de la Conférence des évêques de France, au téléphone de Jérôme Jadot.
Que ces victimes aient déjà vu leur coupable passer devant les procès et éventuellement aient déjà touché d'ailleurs une indemnisation, ou que les faits soient prescrits, c'est ça qui est très important. Nous pensons que cette allocation de reconnaissance de la souffrance, elle est pour tous, que les faits soient prescrits ou pas. Pourquoi c'est un forfait? C'est parce que nous ne sommes pas en train de faire des gradations dans la souffrance. Des personnes ont souffert. C'est une reconnaissance, une forme de manifestation de la solidarité que nous devons vivre avec elles. Donc il y aura un fonds spécifique pour faire des appels à des dons.
Où en est-on de la prise de décision?
La décision de principe est actée. Ce sont en effet les modalités et le timing de tout cela qui sera déterminé.
Voilà, décision finale samedi prochain à l'Assemblée des évêques à Lourdes. C'était il y a un an, une nouvelle vidéo choc de l'association L214 provoquait la fermeture d'un abattoir de la Châtre dans l'Indre, l'abattoir du Bois Chaud. Les images étaient insoutenables, on y voyait des vaches suspendues par une patte et découpées sans être tout à fait inconscientes. Dès le lendemain, le ministère de l'Agriculture ordonnait la fermeture de l'établissement. Deux plaintes étaient déposées, l'une par l'abattoir pour intrusion dans un lieu privé, l'autre par l'association pour maltraitance animale. Depuis, cet abattoir du Bois Chaud a rouvert ses portes de façon progressive. L'activité y est réduite une fois par semaine à peu près. On va y revenir avec notre invité. Mais d'abord, retour sur cette vidéo du scandale dans laquelle les images étaient commentées par la chanteuse du groupe Chaka Ponk.
L'abattoir dans lequel je vous emmène maintenant est un établissement public à taille humaine qui possède une certification en bio. Il s'agit de l'abattoir du Bois Chaud près de Châteauroux. Pourtant, vous allez le voir sur ces images, comme dans tous les abattoirs, on tue à l'arme blanche des animaux qui ne veulent pas mourir. Souvent, ils assistent à la saignée des autres animaux. Dans cet abattoir, les règles minimum d'hygiène ne sont pas respectées. L'employé en t-shirt et sans gants pose le couteau à même le sol, entraînant un risque de contamination. Une fois le crâne brutalement perforé, les bovins s'affalent dans le sang et les excréments des animaux abattus avant eux. Dans cet abattoir, un rapport d'inspection vétérinaire datant de 2016 relevait déjà un grand nombre d'infractions que montre cette enquête. La manière la plus efficace d'obtenir la fermeture de cet abattoir et de tous les autres, c'est de végétaliser au maximum notre alimentation. Moi, j'ai fait le choix de ne plus manger d'animaux. Je ne peux que vous encourager dans cette voie. Nous avons le pouvoir de sauver des vies, de changer le destin de milliards d'animaux. Je suis sûre que bientôt, on parlera de ce massacre comme d'un mauvais souvenir.
Voilà, invité de ce droit de suite, François Daugeron, président de la communauté de communes du pays de la Châtre-Sainte-Sévère qui gère l'abattoir. Bonjour François Daugeron.
Bonjour.
Donc l'abattoir a repris fin juillet, hein, de façon progressive, c'est ça?
Oui, absolument. Donc nous avons travaillé suite à la suspension de l'agrément, nous avons travaillé notamment sur la formation du personnel et aussi nous avions des mises aux normes sur l'outil à effectuer, mais nous avons axé sur la formation notamment du personnel avec des référents comme le docteur Cécile Bourguet qui est éthologue et aussi Sophie Green, docteur vétérinaire qui nous a accompagnés de façon que les opérateurs puissent avoir les bons process et les bons protocoles de l'abattage.
Alors justement, qu'est-ce qui a changé précisément? Quels sont-ils ces bons protocoles?
Ces protocoles, c'est des process que l'on doit respecter, mais je tiens à souligner que on ne peut pas stigmatiser comme ça le personnel. Vous savez, c'est un milieu très difficile, très hostile, et effectivement, et je pense que il doit évoluer aussi, bien sûr, dans le bien-être et dans les bons process d'activité de l'abattage.
Alors le ministre de l'époque, le ministre de l'écologie, François de Rugy, disait que les inspections et audits ne suffisaient plus dans les abattoirs, qu'il faudrait maintenant les contrôler de façon continue. Alors est-ce que c'est le cas dans le vôtre?
Oui, c'est déjà le cas, et je tiens à préciser que nous avons fait un grand travail aussi avec les services de l'État, la DDCSPP qui nous accompagne, et aussi l'État au niveau du département, de façon à faire évoluer notre outil. Et aussi, je tiens à dire aussi d'une manière économique, parce que on voit bien qu'aussi ces abattoirs de proximité, nous sommes multi-espèces, nous devons absolument les faire évoluer, et il faut qu'il y ait une véritable volonté dans la filière, parce que l'abattage ne doit pas rester la variable d'ajustement économique.
François Daugeron, président de la communauté de communes du Pays de la Châtre, Sainte-Sévère, la liaison n'est pas bonne, mais on a bien compris ce que vous vouliez nous dire. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation.
Viens. C'est une prière, viens, pas pour mon père, viens, reviens pour ma mère, viens, elle meurt de toi.
Voilà, c'était l'une des chansons les plus connues de Marie Laforêt avec Les Vendanges de l'amour, qui fut son premier 45 tours en 1963. Marie Laforêt, qui est morte ce matin à Gennolier en Suisse, sa famille l'a annoncé en fin de matinée. La chanteuse et comédienne avait connu son heure de gloire dans les années 60 à 80, avec aussi parmi ses films les plus célèbres Plein soleil de René Clément, ou encore aux côtés de Belmondo, Flic ou voyou, Les Morfalous. Elle avait 80 ans. Dans l'extrait de cette interview de 2008 sur France 2, c'était dans l'émission On n'est pas couché, elle était invitée à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Correspondance intempestive et expliquait pourquoi, à l'époque, elle avait pris un pseudonyme.
Moi, Marie Laforêt, c'est... Bon, bien entendu, c'est moi, mais c'est vous. C'est surtout vous, dans une grande partie. C'est une espèce d'hallucination collective qui s'est cristallisé sur un personnage qui fait ceci, qui est une folle, qui est une ci, qui est une ça. Enfin bref, il y a bien entendu une partie de ce que moi j'ai fourni au personnage, mais il y a une très grande partie de ce que le public a imaginé sur elle.
Ah oui ?
Moi, dans ma tête, j'ai toujours été écrivain. Depuis toute petite, depuis que je suis née, j'ai toujours été écrivain. J'ai eu un accident qui a fait que on m'a demandé de signer un contrat avec Louis Malle pour 4 ans. J'ai cru que ça allait durer 4 ans. 50 ans plus tard, j'y suis encore. Voilà. Mais personnellement, je n'ai jamais voulu faire ce métier. Et a priori, au départ, je n'étais pas faite pour.
Voilà, Marie Laforêt, donc interview de 2008 sur France 2. Marie Laforêt, qui était surnommée la fille aux yeux d'or pour ses yeux jaune-vert, d'ailleurs, en vérité. Elle a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d'albums. Elle avait donc 80 ans.